France Culture.
Les nuits de France Culture.
Le film Teddy des frères Ludovic et Zoran Boukerma, sorti en 2020, primé notamment au festival du film fantastique de Gérard May, raconte l'histoire d'un jeune homme en marge de la société, qui vit sa première histoire d'amour avec une lycéenne nommée Rebecca. C'est avant tout un film sur la découverte de l'amour et de l'autre, mais aussi une déclinaison d'un motif faisant son retour sur le grand écran, le loup-garou. Car Teddy, après avoir été attaqué par une bête qu'il n'a pu contre-apercevoir, perd plusieurs fois la connaissance avant de se retrouver chez lui, blessé ou dans une baignoire remplie de sang. Des poils apparaissent sur sa langue, il se sent investi d'une énergie étrange et animale, avant de finalement briser toute ambiguïté à la fête du village, qui se déroule un soir de pleine lune. Cette déclinaison moderne de la lycanthropie se place en réalité dans la lignée d'une tradition cinématographique centenaire, dont vient parler Alain Garceau dans ce cinquième et dernier numéro de la série « Histoire de loup-garou » de Lise Andriès pour les chemins de la connaissance. Une émission diffusée pour la première fois le 29 novembre 1991 sur France Culture.
Le loup-garou est peu présent dans la littérature, à la différence du vampire, autre créature fantastique, sans doute en partie parce qu'il ne possède pas le même pouvoir de séduction, la même dimension érotique, ou peut-être au contraire parce que son attrait érotique est infiniment plus dérangeant, davantage en relation avec la bestialité et la peur. L'un comme l'autre sont pourtant des êtres de frontière, le vampire se situant entre la vie et la mort, et le loup-garou entre l'homme et la bête, entre la vie civilisée et la vie sauvage, entre le jour et la nuit. Mais le loup-garou, à la différence du vampire, est terriblement vivant. Le loup-garou est présent dès l'Antiquité. Dans la médecine ancienne, c'est une des figures du mélancolique et du misanthrope, et c'est pourquoi il hante les lieux solitaires, les landes et les cimetières. Dans les contes de la tradition orale, il apparaît plutôt comme la victime d'une malédiction ou au contraire comme un sorcier qui a fait un pacte avec le diable. Mais tous les ingrédients sont là pour construire une véritable légende dans laquelle puisera largement le cinéma fantastique. La métamorphose pendant les nuits de la pleine lune, la nécessité d'utiliser une balle d'argent ou une balle bénite pour le tuer, il retrouve alors instantanément son apparence humaine, et surtout l'ambivalence de cet être à la fois victime et agresseur. Car, contrairement à la littérature, le cinéma a fait une large place au loup-garou, qui figure aux côtés d'autres créatures comme Frankenstein et Dracula dans le musée des horreurs du grand écran.
C'est la pleine lune.
Faites attention à la pleine lune.
Et restez sur la route.
Oups.
Je propose de revenir à l'agneau abattu. Attends, une minute. On est perdu. Oh, merde, David, qu'est-ce que c'est?
J'en sais rien. Viens.
Mais oui, viens où? N'importe où, non, il faut continuer absolument à marcher.
Ça avance.
Ça nous encercle.
Quel est ton plan?
Mon plan?
Continue à marcher.
Allez, on fait une jolie petite promenade dans la lande.
Ah, la 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 la.
C'est pas sympa? C'est en face de nous.
Tu crois que c'est un chien? Oh merde, mais qu'est-ce que c'est?
C'est un chien de berger, c'est un truc comme ça. Demi-tour tout doucement et on fout le camp.
Il est gentil, le chien. Bon chien,
ça allait bien, ça raconte débile.
On se débile, oui, c'est ce qu'on fait depuis une demi-heure.
Tu vois quelque chose? Non. Ça a l'air de venir de loin. Non, pas si loin que ça. Avance. Jack.
Quoi? Où est-ce qu'on va?
Je sais pas, je te le dirai quand on y sera.
Oh, espèce de con, tu m'as foutu une de ces trouilles.
Alors aide-moi à me relever.
Jack!
Alain Garceau, vous êtes critique de cinéma et spécialiste de cinéma fantastique. On vient d'entendre un extrait du Loup-garou de Londres, un très bon film de John Landis qui date de 1981. Quelle est l'importance de la filmographie concernant les loups-garous? Quels sont les principaux pays producteurs? Et surtout, quels sont les films qui vous semblent les plus marquants sur ce thème?
Alors, l'importance de la filmographie, il est toujours très difficile dans le domaine du fantastique de recenser tous les films qui ont été faits, tous les films dans lesquels un loup-garou ou un autre monstre du cinéma apparaît, mais disons qu'en gros, on a recensé dans les meilleures listes une soixantaine de films. Les pays producteurs, essentiellement les États-Unis, en fait c'est des États-Unis que sont partis véritablement les mythologies, enfin ce qu'on appelle les mythologies fantastiques, les mythologies fantastiques du cinéma, même s'il y a eu par exemple Nosferatu en Allemagne avant les États-Unis, mais la popularisation, disons, des mythes vient des États-Unis. En dehors des États-Unis, ben le loup-garou a essaimé dans tous les pays qui ont imité les États-Unis, ce qui veut dire qu'il y a eu, selon les époques, des loups-garous au Mexique à la fin des années 50, des loups-garous dans le cinéma européen, plus précisément dans les productions italiennes et espagnoles ou italo-espagnoles, la fin des années 60, du début des années 70. Brève incursion en Angleterre dans les années 60 avec le film de Terence Fisher, Malédiction du loup-garou. Mais on trouve aussi des loups-garous en Égypte et dans le cinéma chinois, enfin dans le cinéma de Hong Kong.
Mais très présents. Peu de production française.
À ma connaissance, quasiment pas.
Comment ça s'explique?
Je crois pour les mêmes raisons que les absences de Dracula, l'absence de la momie, l'absence des grandes créatures du fantastique dans le cinéma français, sans doute un manque d'accoutumance du public, les difficultés, le coût de la production, des maquillages, des trucages pour lesquels les studios français n'étaient pas équipés, et le fait que très tôt, c'est-à-dire à partir du début des années 30, les Américains exercent une prépondérance dans ce domaine et que les producteurs français ont pensé qu'il était inutile de faire concurrence dans un domaine où il y avait déjà une supériorité marquée d'un autre pays.
Alors quels sont les meilleurs films et les plus représentatifs à votre avis?
Alors les plus représentatifs, je dirais d'abord Le Loup-garou, The Wolfman, film réalisé en 1941 par un metteur en scène qui a laissé autrement peu de traces dans l'histoire du cinéma, qui s'appelle George Wagner, avec deux G, sur un scénario de Kurt Schoenmaack. Bon, c'est pour moi le film qui vraiment, je crois, impose le mythe, même si, 6 ans auparavant, il y avait déjà eu une tentative pour mettre Le Loup-garou à l'écran, tentative qui n'avait pas été suivie d'un succès suffisant pour qu'on le reprenne immédiatement. Mais c'est vraiment le film, et en particulier le scénario de Kurt Schoenmaack, qui est le frère du réalisateur Robert Schoenmaack, connu surtout pour ses films noirs. Et donc Kurt Schoenmaack a créé un personnage, Larry Talbot, qui réapparaîtra dans 4 autres films ensuite. Il a créé tout un environnement pour le personnage, en se fondant, dit-il, sur le folklore, sur beaucoup de livres de folklore. Et il a ajouté, je crois, à l'histoire du loup-garou, des éléments qui ensuite vont être considérés comme des éléments mythiques.
Ah, mais il faut préciser les choses, à la fois les emprunts au folklore et ce que ce cinéaste ou ce scénariste a apporté de nouveau. Ça, c'est ça justement qui me semble très intéressant.
Alors les emprunts au folklore, je dirais qu'il y a eu, alors d'abord le cadre européen. Curieusement, il n'y a très peu. Enfin, je connais un ou deux films où il y a des loups-garous aux États-Unis, mais en principe, le loup-garou est pour les Américains un monstre européen.
De la vieille Europe.
De la vieille Europe, c'est ce qui se passe encore dans le loup-garou de Londres d'ailleurs, où l'un des deux personnages se fait mordre dans le Yorkshire ou près de l'Écosse. Là, il y a encore des loups-garous qui se promènent. Serait y en avoir aux États-Unis. Curieusement, d'ailleurs, quand on adaptera en Angleterre le personnage du loup-garou, on le fera sévir en Espagne.
Il n'est jamais dans le pays producteur. Évidemment, ces bêtes-là, il faut aller les chercher à l'étranger.
Voilà. Et quand en Angleterre, on reprendra le loup-garou dans la légende du loup-garou, cette fois-ci, il sévira à Paris.
Bon, et d'autres films qui vous semblent importants pour la constitution?
Alors, les autres films, donc, après ce film de Sionmak, qui est vraiment juif fondateur, aussi parce qu'il va apporter des éléments comme une gitane qui prédit au héros qu'il va se transformer en loup-garou, ce qui introduit toute l'idée presque toujours présente dans les loup-garous cinéma d'une malédiction. Il y a aussi le pentagramme, le signe kabbalistique qui apparaît sur la main du héros.
Qu'on retrouve dans le loup-garou de Londres, d'ailleurs.
Voilà. L'association avec la pleine lune, et puis le masque lui-même. Alors, il y a une chose un peu curieuse, c'est qu'au début du film, il y a un petit poème qui, en français, dit à peu près ceci... Un homme, même s'il est pur et dit ses prières tous les soirs, peut, lorsque l'aconite fleurit et que la lune d'automne est pleine, se transformer en loup-garou. Sionmak a inventé cette comptine et plus tard, dans certains livres, on a considéré que c'était une comptine d'origine folklorique européenne.
Donc il a inventé un nouveau folklore,
voilà,
en quelque sorte.
Il a inventé vraiment le folklore, comme d'ailleurs les scénaristes avaient inventé des aspects du vampire à partir du roman de Bram Stoker, mais aussi à partir de leur propre imagination qui n'existait pas dans la tradition folklorique du vampire.
On va écouter un second extrait du Loup-garou de Londres.
Quoi ?
Je suis vraiment désolé de t'avoir bouleversé, mais je devais te prévenir.
Me prévenir ?
Nous avons été attaqués par un loup-garou.
Non, je ne veux pas écouter ça.
Dans la lande, nous avons été attaqués par un lycanthrope, un loup-garou. C'était un meurtre, une mort pas naturelle. Je suis condamné maintenant à errer dans les limbes jusqu'à ce que la malédiction du loup-garou soit levée.
La ferme.
La race des loups-garous doit absolument s'éteindre. Le dernier loup-garou encore vivant doit être anéanti. C'est toi, David.
Quoi ?
Il faut que tu me croies, je t'en prie. Tu vas tuer plein de monde.
Infirmière !
Écoute-moi !
Infirmière !
Le surnaturel, le pouvoir des ténèbres, tout ça est vrai. Je suis entouré par les morts vivants. As-tu déjà parlé avec un cadavre ? C'est mortel. Je me sens seul. Prends ta vie, David. Suicide-toi. Avant de tuer les autres. Je t'en prie, ne pleure pas.
Alors, justement, vous avez évoqué tout à l'heure le thème du vampire. Comment se caractérise le loup-garou par rapport aux autres créatures fantastiques du cinéma, le vampire, la créature de Frankenstein, etc.
Pour moi, le loup-garou est le plus proche du vampire, dans la mesure où lui aussi est victime d'un phénomène surnaturel. Il est porté involontairement à mordre comme le vampire, plus exactement le loup-garou tue, mais enfin on comprend qu'il tue avec ses dents, qu'il déchiquette aussi avec ses mains et ses pieds griffus, mais surtout la morsure qui est présente. Et puis il vit lui aussi la nuit, autrement dit le loup-garou du cinéma ne se transforme en loup-garou, enfin dans la tradition, il y aura les versions modernes qui vont aménager la tradition, mais dans la tradition, le loup-garou de cinéma ne se transforme que lors de la pleine lune, donc lorsque la nuit est noire, à des moments particuliers de l'année, Comme le vampire, il retrouve un autre état quand le soleil revient. Bon, le vampire lui doit regagner son cercueil, le loup-garou redevient simplement humain. Et il peut mener une vie tout à fait humaine, normale.
Et être un être tout à fait sympathique, même.
Et être sympathique. Et comme certains vampires du cinéma, le loup-garou en général est très malheureux de son état, car il a conscience de son état. Malédiction, plus tard, dans certains films, on parlera de maladie. En tout cas, il cherche par tous les moyens à s'en débarrasser, où il prévient les gens autour de lui qu'il représente une menace. Et dans certains films, comme donc le premier loup-garou de Londres, The Werewolf of London de 35, dont je disais qu'il n'avait pas eu un grand succès, ou dans La malédiction du loup-garou de Terence Fisher, il demande qu'on le tue. Parce que c'est le seul moyen de se débarrasser de cette malédiction. Et puis je crois qu'il est une sorte de pendant du vampire, très différent donc de la momie ou la créature de Frankenstein, dans la mesure où il est un être divisé en deux, il est à la fois humain et animal, mais lui appartient entièrement au règne des vivants, alors que le vampire est à la limite entre les vivants et les morts. Et je le différencierais aussi à ce moment-là, Dr. Jekyll, bon, auquel on pourrait penser aussi,
oui,
puisqu'il
oui,
a deux faces.
Oui, puisque c'est un être double, oui.
Mais Jekyll, d'abord, était quelqu'un qui est devenu un monstre par une opération chimique, alors que le loup-garou est devenu un monstre par une opération magique, de magie noire, bien sûr, qui n'a pas voulu, ou par la morsure de quelqu'un d'autre, donc
oui.
Même contamination que le loup-garou. Ensuite, Jekyll, devenu Hyde, ne tue pas forcément. Il commet des choses atroces. Bien sûr, dans les films, on le fait souvent tuer, parce que c'est ce qui peut paraître le plus atroce, mais il ne tue pas forcément. Et peu importe la manière dont il tue, il fait le mal. Alors que le loup-garou, comme le vampire, il est condamné à une manière de tuer. Et il y a une telle rivalité, je dirais, au cinéma, que on les a couplés une fois dans un film espagnol sans importance des années 70. Un loup-garou rencontre le petit-fils du docteur Jekyll.
Très bien. Mais je crois quand même, à propos justement de la morsure, qu'on a là quelque chose qui se sépare de la tradition, parce que c'est le cinéma qui invente l'idée qu'on devient loup-garou parce qu'on a été mordu par un autre loup-garou. Et je crois qu'on assiste là à une sorte de contamination avec le thème du vampire. Dans la tradition folklorique et dans la tradition lettrée, on ne devient jamais loup-garou par morsure. On devient loup-garou parce qu'on reçoit du diable une ceinture de poils de loup, par exemple, ou qu'on se couvre d'un onguent spécial, magique. Mmh. Mais la morsure, c'est vraiment une invention du cinéma. Alors, une autre question qui me semble importante, c'est précisément la dimension visuelle. Vous avez évoqué tout à l'heure le premier grand film de loup-garou, The Wolfman, de 1941. Il y a déjà des effets de maquillage extraordinaires. Est-ce qu'on pourrait revenir sur cet aspect aussi tout à fait novateur du cinéma, c'est-à-dire la métamorphose avec tout l'aspect effrayant que ça peut représenter pour le spectateur?
Oui, ben je dirais que l'histoire des maquillages ou des métamorphoses à l'écran, c'est un peu aussi l'histoire du loup-garou et d'autres créatures fantastiques. Le loup-garou offrant dans ce domaine-là plus de plasticité, disons, que le vampire. Le vampire, finalement, peut se réduire à ses canines agressives.
Oui, c'est limité, c'est vrai, voilà. À sa grande cape noire et rouge.
Exactement. Et encore qu'on ait vu des vampires en costume, qu'on ait vu des vampires dans un téléfilm presque en blouson noir. Bon, le loup-garou se doit à bien d'autres aspects, enfin, quand même. Alors, au début, donc, le loup-garou, lorsqu'il est apparu à l'écran, dans les films dont j'ai parlé, enfin, les films les plus importants, bon, il a le visage, les pieds et les mains. Le corps est laissé, disons, à l'appréciation du spectateur. On devine parce que, si par exemple, on a vu le personnage en costume de ville, ou en tout cas avec une chemise, un pantalon, le pantalon est déchiré, la chemise aussi, on a l'impression qu'il y a en lui une puissance physique qui a augmenté les dimensions de son corps. Mais le cinéma hollywoodien, qui est celui des années 40, reste très discret à ce sujet-là. Ce qui frappe quand même dès le début, c'est qu'on a essayé en effet de rendre, alors là comme dans les Dr. Jekyll, la transformation à l'écran. À la fois par le maquillage et par des effets visuels qui étaient au début donc le tournage image par image. On voyait peu à peu sur l'écran donc s'animer le visage humain qui devenait visage de loup-garou. Et en général, à la fin du film, quand le loup-garou meurt, il redevient humain. Et on assiste à la régression, voilà. transformation inverse. Et puis, bon, les effets spéciaux donc ont évolué. Encore donc dans La Malédiction du loup-garou de Terence Fisher en 60, on a un maquillage, cette fois-ci, qui porte sur tout le corps parce que la censure est un peu plus libre, on joue un peu plus sur les attraits physiques du personnage. Donc on voit que le corps lui-même, tout en restant humain, est couvert de poils. Mais on a toujours un maquillage. Le masque réalisé d'ailleurs à l'époque par Roy Ashton était très inspiré du masque de Bérard pour La Belle et la Bête de Cocteau. Mais c'est aussi la première fois qu'on voyait un loup-garou en couleur. Et s'ajoute donc alors la couleur des poils qui avait été choisie comme proche de la couleur des loups eux-mêmes. C'est un gris feutré qui évoque bien la couleur du loup.
Dans Le Loup-garou de Londres, il y a alors, le second, voilà. Celui de 1981, il y a bien une scène de métamorphose qui dure 5 minutes.
C'est cela. Alors, les transformations à l'écran étaient jusqu'alors assez réduites en temps. Bon, c'était une accélération du temps, et certains films même faisaient carrément l'économie. Autrement dit, on voyait un plan le personnage humain, et le plan d'après, on apercevait une silhouette de loup, on recadrait sur le visage, la transformation s'était faite en dehors des yeux du spectateur. À partir des années 80, donc quand on fait revivre un peu toutes les créatures du cinéma fantastique, pour un public qui le connaît, enfin le public américain qui le connaît par les films classiques, par la télévision, on a d'autres moyens. Et là, on va jouer sur la durée d'abord de la transformation. Comme vous disiez, donc on voit
tout à fait spectaculaire.
Le loup-garou presque en durée réelle passer de l'état humain ou une partie de son corps passer de l'état humain à l'état lupin, disons. Mmh. Et on voit aussi, alors beaucoup plus, une tentative pour lier en somme la morphologie du loup à la morphologie de l'homme. C'est-à-dire montrer comment non seulement des poils poussent, mais comment un visage humain peut, par des transformations progressives des os et des muscles, devenir entièrement un visage de loup. Et non seulement le visage, mais aussi le corps. Dans Le Loup-garou de Londres, c'est le bras qui se transforme progressivement en patte.
La main qui s'allonge.
La main qui s'allonge, se déforme. Bon, alors les méthodes ont changé, bien sûr. Ce n'est plus alors là de l'animation image par image. C'est en général filmé presque en temps réel. Du temps de l'image par image, bah, c'était le maquilleur qui faisait tout le travail. On dit que pour maquiller Lon Chaney dans Le Loup-garou de 1941, il fallait 5 heures. Chaque matin, et seulement 45 minutes pour enlever le maquillage.
Oui, il collait les poils les uns après les autres.
Voilà, on collait des poils de yak, peut-être parce que La Malédiction du loup-garou est liée au Tibet dans certains films, mais on collait des poils de yak. Et un par un, on filmait différentes étapes, donc un peu de poils, plus de poils, etc., jusqu'au moment où on avait un maquillage satisfaisant. Donc finalement, le spectateur voyait assez rapidement la transformation, une belle transformation c'est sûr, mais assez rapidement, et une transformation qui, rétrospectivement, donne l'impression quand même que on a vraiment un homme, moins qu'un loup, c'est un homme très velu.
Ah oui, dans les anciens films, voilà. Il reste debout sur ses deux jambes.
Il reste sur ses deux jambes, il a une démarche pataude, qui est parfois plus proche de celle du singe d'ailleurs que de celle du loup. Bon, il a des gros sourcils, il a un nez un peu déformé, il a de grosses lèvres avec bien sûr une rangée de dents carnassières, mais on sent l'homme. Alors que dans les films récents comme Hurlement, donc de 1980, Le Loup-garou de Londres de 1981, on a au contraire l'impression qu'il n'y a pas de limite. Enfin, que ce qui est en un sens plus fort pour nous aujourd'hui, parce qu'on se dit que chacun de nous peut se transformer en loup-garou. Et c'est dans le film de Neil Jordan, La Compagnie des loups, qui est de 1983-84, que les choses ont peut-être été poussées le plus loin dans une séquence qu'on a vue souvent reproduite en image, puisque le mufle du loup sort progressivement, comme en temps réel, de la bouche d'un personnage.
Oui, on voit aussi une scène dans ce film où des personnages du XVIIIe siècle se transforment. Ils ont des vêtements comme on les imagine chez les nobles de l'époque, des dentelles pour les femmes, etc. Des chaussures de velours et on voit les griffes qui sortent des chaussures. C'est tout à fait spectaculaire. Mais alors j'aurais une dernière question à vous poser. Pourquoi cet intérêt finalement encore aujourd'hui de la part des cinéastes, mais forcément aussi de la part du public, pour une bête aussi archaïque ?
Alors je dirais que l'explication me paraît double ou triple. Bon, d'abord, le public américain, le jeune public américain, a été habitué, au moins jusque dans les années 80, à voir ces films classiques américains à la télé, à les voir, à les revoir, à des heures qui sont des heures d'écoute pour les enfants. Donc ces enfants devenus assez adulte pour faire des films, comme John Landis qui a réalisé Loup-garou de Londres, Joe Dante qui réalise Hurlement, réalise leur rêve d'enfant. Ils font des films de loup-garou pour un public qui a leur âge et qui voit avec des moyens modernes et la distance prise par rapport à la tradition, aux vieux films, avec beaucoup de clins d'œil. Enfin, tous ces films sont pleins d'allusions dans les noms des personnages, dans les rencontres, dans les situations. Ainsi, dans le Hurlement, il y a un personnage qui s'appelle le docteur Wagner. Bon, c'est évidemment une référence à George Wagner, le metteur en scène du Loup-garou de 41. Donc, on satisfait ce public-là en lui donnant une forme moderne de ce qu'il a aimé étant jeune, sous un aspect plus ancien. Deuxièmement, le loup-garou a été popularisé par le cinéma, comme Dracula, comme la momie, comme la créature de Frankenstein. Il est devenu maquette à construire et à peindre, il est devenu poupée, personnage comique de toute taille, personnage de bande dessinée. On vend les masques imités des loups-garous comme de la créature ou de Dracula pour les Halloween et autres Mardi Gras américains. Donc il fait partie, disons, de tout un folklore moderne, entièrement lié, me semble-t-il, au cinéma, même s'il s'enracine dans un folklore beaucoup plus ancien. Et en ce sens-là, le loup-garou fait partie, disons, de l'environnement, au moins des enfants américains et des pays qui subissent le plus l'influence des États-Unis. Et enfin, alors je dirais que, bon, la troisième raison, les deux premières me semblaient liées au cinéma, la troisième, je crois, c'est-à-dire la réapparition du loup-garou dans les années 80, réapparition qui n'a pas été faite non plus par hasard, c'est qu'on a senti que le public était prêt à admettre un retour du loup-garou comme un peu un retour de Dracula, par exemple, me semble lié aussi aux circonstances, c'est-à-dire que le loup-garou, c'est quand même quelqu'un qui exprime une très grande violence, la violence qu'il y a en chacun de nous. Ces actes criminels peuvent être encore plus violents que ceux du vampire. La morsure du vampire laisse deux trous d'où s'écoule un filet de sang.
Là, il s'agit d'égorger.
Voilà, le loup-garou égorge, déchiquette. Donc nous sommes au moment où, d'une part, le cinéma d'horreur se tourne vers l'horreur proprement dite, ce qu'on a appelé le gore, donc le sang et le détail anatomique dans la destruction du corps humain. Mais d'autre part, si il y a ce goût pour le gore, c'est me semble-t-il parce que la période est quand même une période après la guerre du Vietnam, une période où le public américain était sensibilisé à la présence du cadavre déchiqueté, du cadavre abîmé, disons, ou des nombreuses blessures, et que finalement, bon, ben, il voit sur l'écran un être qui est un brave jeune homme, comme dans le Loup-garou de Londres, ou même une jeune femme, comme dans Hurlement, et qui peut, brusquement, faire surgir hors de lui l'animalité, la bestialité la plus cruelle, disons.
C'était Les loups-garous au cinéma, avec Alain Garceau, le cinquième et dernier épisode de la série « Histoire de loup-garou » de Lise Andriès pour les chemins de la connaissance. Première diffusion le 29 novembre 1991 sur France Culture.